Vous écoutez On lit pour vous.
Là où on écoute vraiment les ados. Un texte de Marianne Cusson, paru le 17 octobre 2025 dans la presse. Marianne Cusson a 16 ans. Elle fréquente la Maison des jeunes Trait d'Union à Victoriaville. Voici son témoignage. J'ai commencé à fréquenter une maison des jeunes, MDJ, dès que j'ai pu, à l'âge de 12 ans. Depuis des années, je voyais la sœur de mon ami aller à celle de notre ville et j'étais convaincu que j'y trouverais ma place moi aussi. Je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, ma MDJ est devenue ma deuxième maison. Certainement parce que je peux y faire une foule d'activités avec des jeunes de mon âge, mais aussi parce que j'ai la chance d'y rencontrer des intervenantes et des intervenants incroyables. En passant du temps avec ces adultes qui ne sont ni des membres de ma famille ni des professeurs, j'ai pu développer des liens de confiance précieux. Grâce à cela, j'ai pu m'ouvrir à eux avec plus de facilité lorsque j'ai eu besoin de soutien. Chaque intervenant est un modèle pour chaque jeune qui fréquente une MDJ. Ce sont des adultes qui ont pour objectif premier de créer un lien significatif avec les jeunes. Formés pour comprendre nos problèmes, ils et elles sont là pour nous donner des conseils avisés sur des sujets importants comme la santé mentale, les relations interpersonnelles, la sexualité, les dépendances ou encore le racisme. L'importance de la prévention. Une maison des jeunes, c'est un milieu de vie où on peut faire ce qu'on veut, tant que c'est respectueux, avec des intervenants pour nous accompagner. C'est un espace de soutien, d'accompagnement, de relations volontaires et égalitaires où on est challengé de façon positive. On y fait autant des activités ludiques que des ateliers de prévention. À mon avis, elle est vraiment là, la plus-value des MDJ. On parle beaucoup des situations en lien avec les ados quand ça dégénère. Intimidation extrême, gang de rue, surdose. On entend, et je le constate en regardant autour de moi, que la santé mentale des ados est fragile et qu'ils ont besoin de plus de soutien. Mais on ne parle pas assez de prévention, alors qu'au Québec, des centaines de MDJ ont justement pour mission d'en faire, contrairement à l'école. Écoutez-nous, les jeunes, nous sommes l'avenir. Bientôt, je serai trop vieille pour fréquenter ma MDJ. Je la quitterai avec un bagage immense, une meilleure connaissance de qui je suis et une capacité à m'affirmer davantage. Ce qui rend les MDJ si spéciales, c'est le fait que c'est un projet par, pour et avec les jeunes. Moi-même, j'ai la chance de siéger au Conseil des jeunes ainsi qu'au Conseil d'administration de la MDJ. Dans les deux cas, je représente les jeunes de ma communauté, je propose nos idées et je m'assure qu'on prend des décisions qui nous ressemblent. Je pense que plusieurs de nos institutions et nos décideurs devraient prendre exemple sur les MDJ et vraiment écouter les besoins et aspirations des jeunes. On dit souvent que les ados sont l'avenir, et c'est vrai, mais on est déjà là. C'est à l'adolescence qu'on se construit, et c'est à ce moment-là que les MDJ sont importantes pour nous aider à devenir des adultes qui se connaissent bien et qui ont tous les outils pour devenir des citoyennes et citoyens critiques, actifs et responsables. C'est nous, les ados, qui vivrons dans la société de demain. Et on mérite de participer à sa construction. C'était « Là où on écoute vraiment les ados », un texte de Marianne Cusson, paru le 17 octobre 2025 dans La Presse. Thank you.
Un emploi complexe réduit la probabilité de démence. Un texte de Mary Kim du Washington Post, paru le 6 avril 2026 dans la presse. L'éducation, c'est bien, pour toutes sortes de raisons, y compris parce qu'elle pourrait réduire le risque de démence. Selon une étude récente, chaque année supplémentaire de scolarisation réduit de 7 % le risque de maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Mais il y a aussi les emplois qu'on occupe après les études. Le type de travail qu'on fait tout au long de sa vie pourrait être tout aussi important, sinon plus. Un emploi qui implique la prise de décision ou de la créativité plutôt que des tâches répétitives ou manuelles semble aider à garder l'esprit vif et attentif. Plusieurs études suggèrent que si les gens occupent des emplois complexes durant leur vie, ils ont moins de risques de démence plus tard, affirme Jimshil Hyun, professeur adjoint de neurologie au Albert Einstein College of Medicine à New York. Des postes comme gestionnaire, enseignant, avocat et médecin sont considérés comme des emplois à complexité élevée, plus que travailler dans un bureau, dans les transports ou sur une chaîne de montage. Participer à des activités mentalement stimulantes tout au long de la vie semble aider à préserver la santé mentale en fin de vie et augmenter la réserve cognitive, la capacité du cerveau à faire face aux changements liés à l'âge ou à la maladie. Mais pas de souci si votre emploi ne répond pas aux critères. Lire, socialiser, faire du bénévolat et de nombreuses autres activités améliorent aussi la réserve cognitive. Pourquoi le travail pourrait être lié au risque de démence? Nous passons la majeure partie de notre journée au travail, au moins 8 heures par jour. Le tiers de notre temps est consacré au travail, parfois plus. Résume Naheed Mukadam, professeur de psychiatrie au University College London. C'est en grande partie ce dans quoi notre cerveau est engagé, et ça a un effet contributif important sur le développement de la réserve cognitive. Dans une étude récente, Mme Mukadam et ses collègues ont étudié les facteurs qui pourraient influencer l'effet protecteur de l'éducation contre la démence. Leur analyse porte sur 384 284 participants et tient compte de comportements comme la consommation d'alcool, le tabagisme et l'exercice, de maladies comme l'hypertension et le diabète, de la complexité professionnelle et du revenu. Conclusion, la complexité professionnelle est la principale raison pour laquelle plus d'instruction tend à réduire les risques de démence. Elle représente plus de 70 % de ce lien. Les gens qui ont plus d'instruction tendent à obtenir des emplois mieux payés et plus complexes. Ensuite, les bénéfices pour leur santé physique et cognitive s'accumulent, dit Mme Mukadam. Plusieurs études établissent un lien entre revenus plus élevés et risques de démence moindres. Les chercheurs en déduisent que la complexité de l'emploi joue probablement un rôle important dans cette relation. Complexité professionnelle. De même, selon une étude co-signée par Mme Hyun, en 2021, la complexité professionnelle est prédictive de la démence en fin de vie, indépendamment de l'éducation. L'étude a examiné les effets sur le temps de survie sans démence, le nombre d'années durant lesquelles une personne a vécu avant un diagnostic de démence, chez 10 195 participants de 6 pays. Les diplômés du secondaire vivaient 26 % plus longtemps sans démence que les personnes ayant quitté l'école vers le milieu du secondaire. Mme Hyun émet l'hypothèse que la stimulation mentale d'un emploi complexe construit la réserve cognitive, ce qui aide les gens à résister au déclin cognitif et à rester mentalement vifs plus longtemps, même en présence de plaques nocives observées dans les cerveaux affectés par l'Alzheimer. L'hypothèse de la réserve cognitive suggère que si les gens font des activités cognitivement enrichissantes, alors leur cerveau a un réseau plus efficace, explique Mme Hyun. En dépit d'éventuelles pathologies cérébrales, ils ont d'autres voies pour que différentes parties du cerveau puissent encore communiquer entre elles. Que faire si votre emploi n'est pas particulièrement complexe? Ne cessez jamais d'apprendre. L'instruction augmente la réserve cognitive. C'est comme un muscle, explique Mme Mukadam. En plus de lire régulièrement, suivez des cours offerts par le service des loisirs de votre municipalité ou des établissements d'enseignement de votre région. Trouvez des passe-temps enrichissants, certains loisirs, jeux de société ou activités artisanales comme le tricot ou la courtepointe sont bénéfiques pour le cerveau. Devenez bénévole. Se sentir utile peut aider à préserver la fonction cognitive. Consacrer son temps à une cause valable peut solidifier ce sentiment d'utilité, vous enseigner de nouvelles compétences et élargir votre réseau social. Restez socialement connecté. Des liens sociaux solides sont liés à une plus grande réserve cognitive. La santé cardiovasculaire a été une préoccupation pendant plusieurs décennies. Donc, c'est formidable que les gens s'intéressent maintenant à ce qu'ils peuvent faire pour la santé du cerveau, dit Mme Moukadam. Comme on vit plus longtemps, c'est important de préserver cette fonction cérébrale pour qu'on puisse continuer à utiliser notre cerveau aussi longtemps que possible. C'était « Un emploi complexe réduit la probabilité de démence », un texte de Mary Kim du Washington Post, paru le 6 avril 2026 dans la presse.
On doit parler de la banalisation des discours d'extrême droite au Québec. Un texte de Sébastien Burdalski, paru le 7 mars 2026 dans Le Devoir. L'auteur est candidat au doctorat en management à l'UQAM et chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC. Depuis plusieurs années, j'observe la montée des mouvements d'extrême droite, notamment en France, en Italie et aux États-Unis. De nombreux travaux ont montré que ces mouvements ne sont pas des partis comme les autres. Comme le rappelle Salomé Sacchi dans son livre « Résister », ils représentent un danger pour l'état de droit et pour nos démocraties, en particulier pour les droits des minorités. Pendant longtemps, je me disais que le Québec semblait relativement épargné par cette tendance mondiale. Certes, l'extrême droite existe déjà ici sous forme de groupuscules, mais elle ne disposait pas d'une véritable traduction politique dans l'offre partisane ni d'une présence institutionnelle comparable à celle observée dans plusieurs pays européens. Les choses commencent à changer. Précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas ici d'accoler des étiquettes pour discréditer des individus. La question est plutôt de comprendre comment les idées d'extrême droite s'installent progressivement dans le débat public afin de pouvoir s'en prémunir collectivement. Les acteurs que je mentionne sont d'ailleurs invités à réfléchir à leur contribution, que j'espère involontaire, à cette banalisation de certains discours. En effet, l'extrême droite ne prend généralement pas le pouvoir d'un seul coup. Elle le fait lorsque ces thèmes deviennent progressivement acceptables dans l'espace public. C'est ce que les politologues appellent la « fenêtre d'Overton », le déplacement graduel de ce qui est considéré comme dissible ou légitime dans le débat public. Dynamique. Dans plusieurs pays occidentaux, ce processus a été observable sur la question migratoire. Les discours ont souvent suivi une trajectoire similaire. D'abord associer certains problèmes sociaux à l'immigration, puis généraliser ces accusations jusqu'à faire accepter l'idée que l'immigration constitue en soi une menace. Dans certains cas, ces dynamiques ont conduit à des politiques très dures. Aux États-Unis, par exemple, certaines pratiques de l'agence ICE ont été rendues possibles par ce déplacement progressif des normes, ce qui constitue un débat acceptable. Le Québec n'est évidemment ni la France ni les États-Unis. Mais certains éléments récents évoquent un déplacement du débat public qui mérite d'être discuté. Le barreau du Québec lui-même a récemment mis en garde contre certaines tendances pouvant fragiliser l'état de droit. La question est donc de comprendre par quels acteurs et par quels discours ce déplacement pourrait s'opérer. Je vais ici me limiter à deux exemples. Premièrement, parlons d'Éric Duhaime. Plusieurs éléments de son programme s'inscrivent dans un ensemble de thèmes fréquemment associés au populisme de droite contemporain. Baisse d'impôts, aide à la natalité, loi et ordre, crypto-monnaie, etc. Cette combinaison entre populisme fiscal, rhétorique sécuritaire et thèmes identitaires correspond à une configuration idéologique que plusieurs travaux associent à la droite radicale contemporaine. On retrouve des configurations comparables dans d'autres contextes politiques, par exemple dans l'entourage du gouvernement Trump, où politique fiscale régressive, durcissement sécuritaire et rhétorique anti-immigration se sont combinés à un virage favorable aux crypto-monnaies. Ensuite, il y a Bernard Drinville. En affirmant que les travailleuses qui ont perdu leur emploi en raison de leur refus de retirer leurs signes religieux ont fait le choix de perdre leur emploi, il participe à la banalisation de discours anti-immigration et plus largement islamophobes. Dans sa sortie récente, il va plus loin. Il propose de faire deux classes de citoyens. D'un côté, les vrais Québécois avec des droits fondamentaux et, de l'autre, les demandeurs d'asile auxquels ils proposent de limiter l'accès à l'aide sociale à 6 mois, de supprimer l'allocation logement, de les faire passer au second plan pour les logements sociaux, tout en demandant au gouvernement fédéral de restreindre le droit d'asile et de retarder l'accès à la résidence permanente. Ce type de discours est relativement inédit dans l'espace politique québécois contemporain. Normalisation. Dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient la circulation de discours masculinistes, identitaires ou profondément réactionnaires, et où la question de leur régulation, notamment pour les jeunes, reste largement ouverte, le déplacement de la fenêtre d'Overton devient une possibilité réelle. Or, l'histoire politique récente montre que ces déplacements sont souvent progressifs. Une fois certaines idées pleinement normalisées, il devient beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Ce qui se passe dans nos écoles, montée de discours misogynes, homophobes, transphobes et masculinistes chez les jeunes, n'est que le commencement si on commence à banaliser ce genre d'idéologie. C'est pourquoi il est essentiel que les médias, les responsables politiques, les dirigeants économiques, les universitaires et les citoyens demeurent attentifs à ces évolutions. Préserver un espace démocratique où les droits sont égaux pour tous suppose de reconnaître ces dynamiques avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Les démocraties ne s'érodent pas seulement par des ruptures brutales. Elles se transforment aussi par de petits déplacements du débat public que l'on finit par considérer comme normaux. La question n'est donc pas de savoir si le Québec est déjà confronté à l'extrême droite. Elle est de savoir si nous serons capables de reconnaître les signes avant-coureurs de sa banalisation et d'y répondre tant qu'il en est encore temps. C'était « On doit parler de la banalisation des discours d'extrême droite au Québec », un texte de Sébastien Burdalski, paru le 7 mars 2026 dans Le Devoir.
Courriel trompeur, ranimer un vieil iPad, paiement mobile en voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er avril 2026 dans La Presse. Daniel Bonin, un lecteur, demande « Je reçois à l'occasion des courriels dont l'adresse de l'expéditeur contient mon adresse courriel. Y a-t-il une solution pour freiner ces arnaques ?» Recevoir un message de sa propre adresse peut donner des sueurs froides. Mon compte a-t-il été piraté ? Rassurez-vous, c'est une illusion numérique. Sur une lettre reçue par la poste, par exemple, l'expéditeur peut écrire n'importe quelle adresse de retour dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, y compris celle du destinataire. Le facteur livrera le courrier sans vérifier si l'identité de l'expéditeur est exacte. Par courriel, la mécanique est identique. Le système d'envoi des courriels est assez ancien. Il permet de maquiller facilement l'adresse d'origine. Les fraudeurs utilisent cette ruse pour vous effrayer et pour éventuellement vous hameçonner. Aucune solution technique miracle n'existe pour bloquer cette supercherie à la source. La meilleure parade reste le bouton « indésirable » ou « pourriel ». Si vous signalez ces messages à votre fournisseur, le filtre de votre boîte de réception deviendra plus sévère. Ne répondez pas et ne cliquez sur rien. Effacez le courriel. Votre mot de passe est probablement toujours sous bonne garde. Gilles Gélineau, un lecteur, demande « Je désire récupérer des photos dans un vieil iPad. Peut-on y avoir accès sans mot de passe? Est-ce qu'une firme externe peut y parvenir ?» La réponse va vous décevoir, mais prouve la sécurité de votre appareil. Sans code secret, votre vieil iPad est une brique, ni plus ni moins. Apple utilise un chiffrement matériel et le code numérique tapé à l'écran de ses appareils mobiles est l'unique clé de déverrouillage. Là-dessus, méfiez-vous des cliniques informatiques ou des logiciels virtuels et de leurs promesses miracles. C'est presque toujours une arnaque. Les seules entreprises capables de contourner cette barrière travaillent pour la police. Leurs outils coûtent des fortunes et restent inaccessibles au public. L'espoir ne se trouve pas sur la machine, mais dans le nuage. Si cette tablette était connectée à votre réseau sans fil à l'époque, vos souvenirs dorment peut-être encore sur les serveurs d'Apple. Allumez votre ordinateur et visitez le site d'iCloud. Connectez-vous avec votre profil Apple de l'époque. Vous y trouverez peut-être vos photos.
Explorez aussi vos vieux disques durs pour dénicher une éventuelle sauvegarde iTunes oubliée. Monique Paradis, une lectrice, demande « Une policière à la retraite m'a recommandé d'enlever le paiement sans contact sur mon cellulaire en voyage et de payer avec la carte. Ce serait plus sécuritaire. Par contre, elle recommande de payer avec le téléphone plutôt qu'avec la carte au Québec. Est-ce une bonne pratique ?» Avec tout le respect dû à cette policière, son conseil repose sur une logique inversée. Le téléphone est plus sécuritaire que la carte de plastique, peu importe où vous êtes sur le globe. L'explication se trouve dans la technologie de la tokenisation du paiement sans contact. Lorsque vous approchez votre appareil d'un terminal, il ne transmet jamais votre véritable numéro de compte. Il génère et envoie un jeton unique et temporaire. Si un malfaiteur pirate le terminal d'un café à Paris ou d'une boutique au Québec, il récoltera seulement un code numérique éphémère, sans valeur. Une carte physique, elle, révèle ses vraies informations lors de chaque transaction. Un téléphone perdu ou volé exige votre visage, votre empreinte digitale ou votre mot de passe pour autoriser un achat. Une carte volée donne la chance au voleur de faire plusieurs achats sans contact avant le blocage du compte par votre institution financière. Le seul véritable risque avec un téléphone à l'étranger est une panne de batterie ou une incompatibilité de la carte de paiement choisie avec le terminal. La solution ? Utilisez votre appareil pour vos achats quotidiens et laissez votre carte bien cachée dans votre chambre d'hôtel comme plan de secours. C'était Courriel trompeur, ranimer un vieil iPad, paiement mobile en voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
Un jeu musical pour réduire le bégaiement. Un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux, paru le 9 mars 2026 dans U2M Nouvelles. Le bégaiement n'est pas seulement une difficulté à sortir les mots. Il s'agit d'un trouble du développement de la fluidité verbale lié à des déficits de synchronisation dans le contrôle moteur de la parole. Ce trouble se manifeste généralement entre 2 et 5 ans, dans une proportion d'environ 5 à 8% durant la petite enfance. Selon les estimations, chez 70 à 80% des jeunes touchés, il disparaît naturellement, sans intervention spécialisée. Mais pour la portion restante, le bégaiement peut persister jusqu'à l'âge adulte. Et si tapoter un écran du doigt au rythme d'une musique pouvait aider ces enfants à réduire leurs troubles? Tel est le pari que s'est lancé Simone Falk, professeure au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal et chercheuse au Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Dans une preuve de concept récente, son équipe et ses collaborateurs en psychologie et en orthophonie ont évalué la faisabilité et les effets potentiels d'un entraînement rythmique ludique sur les capacités rythmiques, cognitives et liées à la parole chez des préadolescents qui bégaient. Plus qu'un simple jeu. L'équipe s'est appuyée sur un jeu rythmique conçu initialement par Simone Dalabella, collaborateur à l'étude et professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Appelé Rhythm Workers, le jeu a déjà été testé auprès d'autres populations cliniques, telles que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et celles présentant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il repose sur une mécanique simple. Écouter de la musique et tapoter un écran du doigt en suivant le rythme. Plus la synchronisation est précise, plus le joueur progresse dans le jeu. Dans cette étude pilote, des enfants de 9 à 12 ans qui bégaient ont utilisé le jeu pendant 3 semaines pour un total moyen d'environ 300 minutes. Comparativement à un groupe témoin jouant à un jeu non rythmique, les enfants ayant utilisé le jeu rythmique ont présenté une diminution des erreurs dans des tâches oromotrices ainsi qu'une réduction des disfluences dans la parole spontanée et lue. Une amélioration du contrôle attentionnel a également été observée. Plus intéressant encore, les enfants qui amélioraient le plus leur capacité rythmique étaient aussi ceux dont le bégaiement diminuait le plus. Pourquoi le rythme? Entraîner le cerveau à mieux gérer le rythme, même sans parler, pourrait améliorer indirectement la parole. Cela s'explique par la mobilisation d'un vaste réseau cérébral impliqué dans la synchronisation, notamment les ganglions de la base, le thalamus, le cortex moteur et le cervelet. Ce réseau joue un rôle clé dans le contrôle fin de l'articulation, en particulier dans le timing et la coordination entre perception auditive et production motrice. Chez les personnes qui bégaient, ce système présente souvent des altérations, ce qui peut entraîner des blocages, des répétitions ou des allongements dans la parole. Le bégaiement peut ainsi être compris comme un déficit moteur de la parole lié à une difficulté à synchroniser ce qui est articulé avec ce qui est anticipé auditivement. Dans ce contexte, l'entraînement rythmique non verbal pourrait contribuer à renforcer ces mécanismes de synchronisation. Un outil complémentaire. Bien que les résultats soient prometteurs, la chercheuse souligne que cette approche doit être considérée avec prudence. L'échantillon de l'étude demeure limité, avec 21 participants, et des recherches à plus grande échelle sont envisagées. De plus, cet outil ne vise pas à remplacer l'orthophonie, mais à compléter les approches existantes. Le bégaiement ne se limite pas à une dimension motrice. Il affecte également la confiance en soi, la participation sociale et le bien-être émotionnel. Une prise en charge efficace doit donc être globale, combinant travail sur la fluidité, soutien psychosocial et environnement bienveillant. Il demeure néanmoins encourageant d'envisager que des approches simples et accessibles, comme un entraînement rythmique, puissent contribuer à améliorer la fluidité de la parole. C'était « Un jeu musical pour réduire le bégaiement », un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux, paru le 9 mars 2026 dans UDM Nouvelles.